Comme on dirait dans le jargon, ce son, c'est de la techno. Des basses, un gros kick, et puis que du bruit. Que du bruit, vraiment ?
Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Musique de défonce mal. Pas de message normal, rien à dire.
On retrouve souvent ce son dans ce qu'on appelle les teufs. Les amoureux du beat ne se rassemblent pas que pour taper du pied. Ce mouvement artistique ne dissimulerait pas seulement l'allocation de ces soirées, mais également certains messages politiques. Entre gros caissons, très e-punk et psychotrope, rendez-vous en terre inconnue bien cachée et bien transpirante. C'est le verlan de fête. Ce sont ces soirées apparues dans les années 90, en même temps que la techno et la house. Particulièrement appréciées en Europe, par exemple en Angleterre dès la fin des années 80, en Allemagne à Berlin avec la techno industrielle, ou encore en France avec la Frenchcore, ces réunions festives sont généralement plus ou moins illégales et prennent des formes très diverses. Les teufs peuvent être gratuites et complètement sauvages. Elles sont alors plus communément connues sous le terme anglais « free party ». Elles peuvent aussi être plus encadrées, voire légales et payantes. Ce sont alors plus généralement des « rave parties ». Allant du dub à l'hardcore en passant par la techno, l'acid, la trance ou encore la tribe, les styles musicaux qui englobent la teuf sont très variés, mais toujours de l'ordre de la musique électronique. Ces fêtes promeuvent des valeurs de liberté, de partage et d'autogestion. Seb, dont le prénom a été changé afin d'assurer son anonymat, a commencé à raver à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui âgé de 36 ans, ce tuffeur aux allures de punk aime toujours autant le milieu.
Moi, je vais en teuf pour partager des moments privilégiés avec des gens entre guillemets comme moi, qui aiment le son, qui aiment faire la fête et qui aiment pas forcément faire la fête comme tout le monde dans un bar, dans un milieu de consommation. Et ouais, le milieu alternatif, moi j'aime bien, je m'y sens à ma place. Ça véhicule des émotions, c'est ce que ça génère en moi. J'aime le son, la vibration que ça génère. Je sais pas, des micro-sociétés qui se créent, des mini-villages où tous les gens partagent l'amour de la même musique et de faire ça donc, de façon un peu décalée.
Pour Victor, ça fait 10 ans au moins qu'il va en teuf. Cet ancien skater a commencé à les fréquenter vers l'âge de 16 ans, comme beaucoup de ses amis à l'époque.
C'est clairement une musique qui est faite pour danser et pour s'évader. C'est proche un petit peu des trances qu'il peut y avoir dans les danses tribales ou tout ça. Enfin, il y a ce côté grosse libération et puis on laisse l'esprit interpréter la musique. C'est ça qui m'a fait vachement kiffer ce style-là. C'est la combinaison en fait de tous les domaines parce que du coup, il y a le visuel, il y a le mapping, il y a toute la partie décoration qui se greffe sur la partie musicale.
Nicolas est DJ en teuf. Il a aidé à l'organisation de quelques soirées. cette musique l'anime ?
Il y a plusieurs genres, donc musique répétitive, hein, souvent à BPM élevé. Pas mal de trucs qui touchent aux sonorités de la rave depuis le début, en fait. Années 90 à 2000. C'est des gens qui se réunissent pour faire la fête, hein, tout simplement, qui n'ont pas forcément envie de payer un billet, une vingtaine d'euros pour une soirée qui se termine à 7 heures. Une grande fête entre copains, quoi.
Victor des Humble Tree, un collectif et sound system dub, est compositeur, musicien et organisateur de soirées. Lui aussi, il a déjà participé à des teufs.
Je suis rentré là-dedans par le fait d'organiser des choses avec des copains. J'ai fait quelques teufs en spectateur, mais la majorité, c'est parce qu'on jouait pour l'ambiance. J'ai toujours connu des teufs d'œuvre, donc c'est toujours cool. Il y a de la bienveillance on s'amuse bien, même si c'est plus qu'à 6h du mat. Ce que je préfère, très épuré, juste avec un kick et des basses, on coupe le chant et puis on va mettre, garder quelques cuivres, mettre des effets, reverb, délai.
Pour Susanna, dont le prénom a également été changé, c'est une autre histoire. Ancienne teufeuse, elle a à présent arrêté de fréquenter ce monde qu'elle considère trop glauque.
J'allais en teuf principalement pour profiter du son et ensuite pour avoir un lieu où la drogue est accessible facilement. On commence parce qu'on a envie d'être un petit peu moins fatigué et au final, on finit par en prendre quasiment quotidiennement, même plus en teuf, même plus avec du son, et ça devient vraiment une addiction et ça pourrit la vie, quoi. Donc, en arrêtant la drogue, j'ai aussi arrêté les teufs parce que c'était également un lieu de forte consommation et un lieu qui pousse un petit peu à la consommation, quoi. Parce que tout le monde se drogue, parce que pour tenir tout le temps, t'as envie d'un petit remontant et tout. Je pense que c'est réel. Après, effectivement, il y a des gens qui vont sans se droguer et tout, et c'est tout à leur honneur. Mais moi, je trouve que quand même, de ce que j'ai vu, teuf est égal à lieu de villégiature pour la drogue, quoi.
Des stéréotypes qui sont parfois vrais, mais pas toujours.
C'est à la fois un argument très pratique pour les autorités pour discréditer complètement les participants. Il faut par rapport à ça être conscient aussi que les stupéfiants, ils circulent dans tous les milieux, en fait. Il y a des drogues clandestines dans les soirées en appartement, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les entreprises.
C'est l'argument qu'ils utilisent. Ok, il y a de la drogue dans les teufs, ok, il y a des drogués dans les teufs, mais de la drogue dans les bars, parce que l'alcool, c'est une drogue, mais socialement acceptée. Des dealers, il y en aura toujours dans les rues. Ah, il y a de la drogue partout, de toute façon. Des petits groupes alternatifs se réunissent entre eux pour refaire le monde et que ça dérange, en fait. Parce que ça rentre pas dans la société de consommation d'aujourd'hui.
Après, il y a des mecs qui organisent des teufs n'importe comment, et puis du style où les gens viennent, ils foutent le bordel et tout machin, et on remballe tout et on se casse, tu laisses un endroit dans un état déplorable, mais c'est quand même, je pense, une minorité, vu que dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, soit des mecs acteurs dans la techno, le dub, la trance, psyché, tout ce qu'on veut, en général, ils sont quand même assez respectueux et ils font en sorte que il n'y a pas trop de déchets. Enfin, par rapport à un festival de 50 000 personnes, en général, on rend le terrain aussi propre, si ce n'est plus. Hein. Les teufeurs qui vont tout saccager, ils sont inconscients, ils font des gros stuff et tout machin, et tu es... Renseignez-vous un peu avant quand même de dire des bêtises, les gars, parce que...
C'est ce que prouve Rachel, animatrice de réduction des risques du projet Plus belle la nuit.
On va aller sur les terrains de la fête, poser des stands et proposer du coup du matériel de prévention de réduction des risques, comme des éthylotests, des préservatifs, des roules tapas, des bouchons d'oreilles et de la documentation sur les produits, les pratiques sexuelles, la santé sexuelle et affective, la sécurité routière, les risques auditifs et le consentement en milieu festif. En fait, tu vois que tous les milieux sont concernés, que tous les âges et tous les niveaux d'études, en fait, et que c'est vraiment un milieu, enfin, c'est un microcosme de la société. Donc, ouais, on peut retrouver des violences, on peut retrouver aussi des violences sexuelles comme, dans toute la société en fait.
Des stéréotypes qui peuvent mener vers diverses formes de violence selon les protagonistes de cette fête underground.
Il y a une violence institutionnelle envers ce milieu qui est actée et qui est généralisée. Alors, moi, j'ai été témoin notamment des mises en danger, par exemple, qu'il y a des gens qui ont consommé de l'alcool ou autre chose et qui sont pas en état de rouler et qu'on évacue un site en urgence en poussant les gens dehors. Ben, on met ces gens-là en danger eux-mêmes dans leur voiture, mais on met aussi tous les gens, tous les autres usagers de la route en danger. Des pressions systématiques, c'est-à-dire que même une association qui veut jouer le jeu, qui veut déclarer ses soirées, louer un terrain, etc., et puis la veille ou trois jours avant l'événement, le maire ou le préfet pour en arrêter, qui dit non, hop, pas possible. Et ça va même jusqu'à des propriétaires, par exemple, de champs qui louent leur terrain, où on vient leur faire des pressions, où la police vient leur faire des pressions, style menace de contrôle fiscal. Et ça, c'est clairement de la violence institutionnelle.
Une autre brigade, mais là, armée, qui est arrivée, et qui nous ont dit clairement, en fait, on va vous suivre partout, vous êtes pistés. Donc on leur a dit « bon, on rentre à Marseille ». Et là, ils nous ont suivis pendant une heure, en banalisé derrière, jusqu'à ce qu'on arrive à Aix-en-Provence et qu'on fasse style. Enfin, on s'est arrêté manger chez une bénévole qui habitait par là. Et puis on est reparti à minuit pour retourner sur le site de la Teuf, où là, il y avait vraiment tous les flics qui étaient présents. Et là, ils nous ont fait attendre une heure dans le camion, dans le froid, pour nous faire rentrer et nous dire de ce que vous dites, votre mission a l'air saine, donc on vous laisse passer, mais bloquer l'entrée, voire les plusieurs entrées. Et en fait, c'est là où je trouve que c'était plus dangereux pour le public, parce que plusieurs personnes ont abandonné leur voiture. Ils sont venus à pied, voire il y a des gens qui me disent 40 minutes dans la broussaille. Et du coup, forcément, ils n'en ont pas... toutes leurs bouteilles d'eau qu'ils avaient prévues, ils n'ont même pas leur duvet, ils n'ont même pas leur voiture en fait pour se poser. Et du coup, c'était plein de gens qui étaient sur notre culotte, à avoir froid et à avoir pas d'endroit où se poser.
Toujours l'exemple de la teuf du Nouvel An où les keufs ont été courtois, c'était « ok, vous n'avez pas le droit d'emmener votre voiture, mais vous pouvez y aller à pied, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de contrôle à outrance, il n'y a pas eu de débordement de la police ». Et du coup, la teuf s'est très très bien passée, eux n'ont pas eu de problème et nous, on a pu faire tranquille la teuf. Et après, des teufs comme Redon, par exemple, où j'y étais, où ça a été un vrai massacre. Les keufs ont tout cassé. Et je trouve ça juste ignoble, en fait.
Redon, pour le coup, ça a été vraiment le cas de répression le plus hardcore que j'ai vu, quoi. Sur le chemin, on guette un petit peu les news, parce qu'il y a déjà des news qui tournaient sur Facebook, comme quoi il y avait déjà des affrontements. On arrive là-bas sur le coup de 2h du mat, là, à Redon. On se gare dans un lotissement qui était juste à côté, ce qui ne laissait pas rentrer sur le site de la FRI. Et déjà là, ça sentait le gaz à perpète, quoi. Donc toutes les habitations en fumée, etc. Finalement, je ne sais pas trop comment, on arrive à rentrer sur le site. Enfin, ils ont déplacé le site à 100, 200 mètres plus loin. Et puis, tu avais encore des affrontements qui duraient derrière. Et ce, jusqu'à, jusqu'à 6-7 heures du matin, où ils sont partis. Donc, on a cru que c'était bon, qu'on allait passer, qu'on allait pouvoir faire la fête, etc. Et sur le coup de 10h, 11h du matin, ben, des explosions devant les murs de son. Donc, on se demande tout ce qui se passe. On voit des gens courir. D'un seul coup, gros nuage de gaz, on voit pas à 5 mètres. Et ils sont en train de pousser la charge. Il n'y avait pas de sommation, rien. Juste, ils ont balancé des grenades dans la foule. C'était en train de détruire le matériel. Donc, tu as des policiers avec des masses, des cutters, tout ce qu'ils pouvaient trouver sous la main. En fait, c'était en train de casser le matériel, quoi, tout simplement. Ils bloquaient l'arrivée des secours, quoi. Parce qu'on a vu, quand j'y étais, j'avais vu des mecs avec vraiment le. Ils s'étaient fait passer à tabac, quoi. Donc, t'avais Techno Plus qui avait essayé de les rafistoler comme ils pouvaient, mais c'était des pansements pour des plaies qui nécessitaient des points de suture, tu vois.
Violence administrative, violence morale, voire violence physique, dont des violences policières. C'est ce que témoignent Alex et Hugo, également présents à Redon.
Avant d'arriver sur le site, à 3 km du lieu, on a ouvert les fenêtres. On a ouvert les fenêtres et ça sentait le gaz lacrymogène.
On a commencé à avoir les yeux qui piquent dans la voiture, enfin, sentir qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air, alors qu'on était dans la voiture, ouais, et comme il dit, même pas encore arrivé à.
T'as 3 km, quoi.
Ça savait déjà que ça allait être un carnage, quoi.
Ouais, 7-8 heures non-stop, il y avait. C'était l'ambiance guerre.
Technival a réussi à se poser à un endroit à peu près là où il voulait. Et donc, on y a accédé à pied. On a vu quelques murs se monter. On s'est dit, bon, là, ça va le faire. Il n'y a pas de problème, quoi. Les affrontements, ça va être fini. Et en fait, pas du tout. Vraiment du bombardement de lacrymogène et de grenades dans encerclement.
Déjà, même avant que les gens ripostent,
hein, oui.
Ils ont allumé le premier son. Ça a duré peut-être une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on a commencé à voir des palais de lacrymogène fusés. Parce qu'en fait, ils ont juste commencé à bombarder à l'aveugle par-dessus les camions.
En tirant en cloche, quoi. C'était des tirs en cloche, en ne savant pas ce qu'il y avait derrière. Et une fois qu'ils avaient tiré quelques lacrymos, ça faisait vraiment un barrage de fumée. Où en fait, nous, on ne les voyait pas et eux ne nous voyaient pas. Et c'était les projectiles, les canettes des teufers qui volaient jusqu'aux flics et les grenades d'encerclement qui nous passaient au-dessus.
Et on croisait des mecs dans un état. Mais mille fois plus catastrophique qu'il l'aurait été après deux jours de soirée. Il y avait les fringues déchirées dans un état, certains qui avaient des marques de flashball sur la tronche.
Il y en a un qui m'a marqué, qu'on a vu dans l'après-midi, un mec qui s'était pris un tir de flashball en plein milieu du visage.
Entre les deux yeux,
quoi. Et j'ai jamais vu un visage autant déformé, quoi.
Ouais.
Il avait du coup, mais son nez, c'était devenu une patate, quoi. Il avait les yeux rouges sang.
Ouais, les yeux qui sortaient de leurs orbites.
Ouais, il faut voir qu'à Redon, du coup, les pompiers n'ont pas pu accéder au site pas avant le lendemain soir, quoi. Et donc, ce gars-là a été soigné à la va-vite dans un stand de RDR. Là.
Ça se voyait clairement que dans les quelques
ils
heures
épuisés, qui
venaient de passer, leur regard avait changé.
Ouais. Ils étaient épuisés, ils avaient l'air vides.
Vraiment traumatisés, quoi. Mais ce qui était vraiment choquant à celle-là particulièrement, c'est qu'on pouvait pas du tout parler.
Est un endroit qui regroupe des gens de tous milieux, ayant diverses revendications. Certains se disent apolitiques, d'autres souhaitent politiser le mouvement. D'autres encore affirment que le mouvement a toujours été politique.
Bah déjà, ces valeurs-là, je trouve pas qu'elles représentent particulièrement un choix politique. Et en plus, de toute manière, c'est quand même des valeurs qui se perdent. Hein, parce qu'aujourd'hui, peut-être les sound systems qui organisent ça suivent toujours ces valeurs, mais les gens qui vont en teuf ou en teuf parce qu'ils peuvent se droguer, parce qu'ils peuvent s'alcooliser, parce qu'ils ont envie de faire la fête et de manière illégale, quoi, et de manière pas encadrée, sans vigile qui va te demander de mettre ta coupe par terre avant de rentrer en boîte. Genre, c'est pour ça, moi, je trouve, il y a beaucoup de gens de plein d'univers différents, et c'est pas, par exemple, un repère extrême gauche ou quoi, comme on pourrait l'imaginer. Bah, pour moi, c'est un peu chaotique, mais ouais, ça relève pas d'une quelconque revendication, parce que ça change pas les codes, ça participe pas à une révolution active.
Le message politique en teuf, il est pas forcément dans la musique, mais il est plus dans les échanges que je peux avoir avec les gens qui y sont, que je les connaisse ou pas, parce que ça reste quand même un milieu marginal. Un peu le ras-le-bol de la société de consommation, de la classe politique, c'est tout se retrouver.
Il y en a qui revendiquent, enfin qui essaient de faire passer un message. Après, est-ce que ça marche ça reste à voir. Mais ça se veut politique à la base. Juste le message d'habitude, quoi. Respectez-vous, respectez les autres. Et puis...
Rien que ouais, dans les premières prises par-ci, dans les années 90, il y avait une revendication à faire la fête du fait que ça soit des flics partis, justement, ou qu'il n'y ait pas d'argent en jeu. C'est peut-être ça aussi qui gêne. Que chacune puisse venir. Et je pense qu'il y a quand même un mouvement revendicatif derrière qui se durcit, hein, qui se durcit peut-être avec plus la répression se durcit.
Au premier abord, ce n'est pas spécialement politique, mais le fait de le faire fait que ça devient forcément politique, je pense. Même si on ne le veut pas, même si on veut juste faire de la musique, le fait de se faire de la musique dans ce cadre-là amène forcément au côté politique, j'ai l'impression.
Alors, beaucoup de gens ont tendance à dire que non. Et en fait, c'est un mouvement qui se revendique apolitique parce qu'il n'a pas d'affiliation à un parti en particulier, à un parti spécifique. Par contre, j'ai toujours été intimement convaincu que la démarche, l'existence même de cette communauté-là, elle est profondément politique parce que justement, on questionne et on remet dans la balance des normes sociales qui actuellement sont... celles admises par l'énorme majorité des gens et que ça touche directement à la politique parce qu'on est sur des valeurs d'autogestion, de liberté.
Mais alors, c'est quoi les solutions ?
Il faudrait plutôt accompagner, par exemple, des mouvements culturels qui seraient en capacité d'organiser des teufs légales avec la protection, de la prévention sur les drogues, par exemple avec des médecins peut-être présents, enfin, ou par exemple, j'ai déjà vu des sessions d'hub organisées qui du coup étaient autorisées et tout, il y avait la Croix-Rouge ou des choses comme ça.
J'ai l'impression que c'est tout le temps des redites, en gros, mais il y a des médiateurs aussi dans chaque région qui sont censés pouvoir faire la médiation entre les forces de l'ordre et en fait c'est des personnes qui sont pas au courant généralement, qui connaissent pas aussi le monde de la teuf et puis en fait ça n'avance pas avec ça. Il y a des sons aussi qui, enfin, c'est vrai qu'ils proposent d'autres formats ou qui vont aller peut-être plutôt vers le légal aussi, proposer des soirées plutôt payantes ou enfin qui proposent, ouais, qui font un peu un mix des deux ou qui vont faire aussi d'autres choses que la teuf, hein, proposer des ateliers, enfin.
Bah déjà, ce qui pose souvent problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas de lieu où on pourrait être autorisé à faire ça. Parce que je vois en République tchèque, c'est légal là-bas parce que justement, ils ont des terrains mis à disposition, des terrains privés ou non d'ailleurs. Et bah ça se passe très bien, quoi. Il y a déjà un changement là de public. Parce qu'avec la fermeture des boîtes, en fait, ça s'est démocratisé encore un peu plus.
Bah, si on commençait plutôt à les assumer et à les intégrer comme acteurs de la culture dans des endroits localement. Mais de manière générale, si on permettait plus aux gens d'avoir des endroits, que ce soit en extérieur ou en intérieur pour qu'ils puissent s'exprimer, et ben peut-être que déjà ça y aura un dialogue un peu plus sain des deux côtés si les gens pouvaient rien discuter de ça déjà plutôt que de se dire que on ne veut pas les voir.
Ça fait très bizarre de le dire, mais à l'époque de Sarkozy, quand il y avait notamment l'exemple numéro un, c'est le Technival du 1er mai, chaque année, le 2 ou le 3 mai, les collectifs de sound system envoient déjà des demandes aux ministres, aux préfets, etc., pour essayer de trouver un lieu en bonne intelligence et que ça se passe bien, de ne pas faire les choses de façon conflictuelle. Et ça fait 10 ans, là maintenant, c'est vrai, ça fait 2 quinquennats, que ces gens-là, ils n'ont, l'État ne prend même plus la peine de leur répondre, en fait. Et sous Sarkozy, bizarrement, il y avait une volonté de dire « Ok, ça va se passer, donc on va vous fournir un aéroport désaffecté ou un terrain qui convient. »
Ouais, laissez-nous faire la fête en paix et tout le monde sera tranquille.
Nous avons également demandé à d'autres acteurs du monde de la nuit. Frédéric Ocard est adjoint à la mairie de Paris et responsable de la vie nocturne.
Donc c'est un phénomène qui est un phénomène qui de toute manière existe. Et la deuxième chose, c'est que c'est un phénomène qui est un phénomène sain. Pour nous, il ne s'agit pas de l'interdire, mais il s'agit soit de la canaliser, soit de, on va dire, la rendre légale, ou en tout cas la rendre possible, et pas de la rendre interdite. Et c'est toutes les discussions qu'on a et qu'on a eues, avec la préfecture de police notamment, de faire de la prévention, de la réduction des risques, bref, d'encadrer, d'accompagner.
Et la police ?
Alors, si elle intervient simplement pour faire la circulation, là, il n'y a pas de violence particulière. Enfin, à chaque fois qu'elle est intervenue avec un objectif qui était un objectif de dispersion, il y a eu de la violence, il y a eu des mutilations, il y a eu du matériel de cassé. Donc, ça fait des. Pourquoi il y a ça ? Parce que ça fait des années que ça s'auto-régule, tout ça. Je veux dire, les organisateurs, et moi j'en connais, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils font ça. Donc, ils savent parfaitement comment ça se passe. Donc voilà, après, ce qui est vrai aussi, c'est que suite à Redon, suite à Lyon, il y a maintenant, et tant mieux du point de vue du ministère de l'Intérieur, des discussions qui ont lieu avec les organisateurs de FRI. Donc il y a des cadres de dialogue qui sont posés à cet endroit-là. Mais c'est de cette manière-là qu'on régulera les choses. Ce n'est pas en étant hypocrite, en disant « il ne faut pas que ça existe ». C'est le même sujet que sur la question des stupéfiants.
Eddy et Léo sont les créateurs du collectif Belladone, un groupe de DJ trans qui se produit uniquement en soirée légale et club techno.
Ça dépend pas mal de l'organisateur et du lieu aussi. Hein. Je pense que 2 soirées en club, dans des clubs différents, des organes différents, si, ça peut être... tu peux avoir des clubs qui sont pas du tout safe, et les friches, je pense que c'est pareil. Non, je pense qu'une des solutions, c'est que ça vienne des gens, quoi, c'est qu'ils soient pas irréprochables, mais que... justement, les histoires où les champs sont pourris parce que les mecs laissent leurs ordures, que ça arrive plus, que les endroits sont très... qu'ils aient rien à reprocher pour qu'ils aient pas d'espèce de moyens de pression qu'ils aient pas de prétexte à interdire ça, quoi, que les gens soient plus ou moins irréprochables. Il y a quand même beaucoup de soirées qui, même quand elles sont presque totalement légales, sont annulées. Que là, sur le Covid...
on a eu le Covid quand même. Terrible en fait. Je me souviens quand on a commencé le truc, on s'est dit mais qu'est-ce qui pourrait faire que justement on n'ait plus de boulot. En fait, on n'avait jamais imaginé une pandémie mondiale. Même au début du Covid, on y croyait, mais on se disait ça va pas nous arriver à ce point-là. On va pas pour 2 ans, et sachant qu'on c'est pas fini, on peut très bien y être encore dans quelques temps. Et c'est de la politique, trop actuelle, mais sur ce qui se passe actuellement, on a l'impression que les boîtes, on est les premiers à prendre. Alors évidemment, il y a des personnes qui se contaminent dans les boîtes, ça c'est une évidence, mais il y a aussi des études qui ont prouvé que c'était pas plus que dans d'autres lieux.
Bah vraiment, c'est bon, allez, on ferme toutes les boîtes, on met tout le milieu au chômage et puis basta, et on passe à autre chose, quoi. C'est quand même très symbolique, quoi. La manière dont c'est annoncé, c'est pas du tout fait pareil que pour les autres milieux, quoi.
Dans un contexte de pandémie, il est difficile aujourd'hui pour toutes les générations de faire la fête ou de rencontrer des gens. C'est dans ce cadre que la teuf prend d'autant plus une tournure politique. Come on!